les jardinières.
Bonjour, les jardinières sont de retour, comme chaque samedi matin, entre 7h et 8h. Et nous allons parler de quoi dans les jardinières? Eh bien, de jardinage, bien évidemment. Ce matin, nous recevons Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. En sa compagnie, nous allons parler des étangs, comment les construire, comment les entretenir. Bref, d'ici une heure, nénuphars, tritons et grenouilles n'auront plus de secrets pour vous.
Et en fin d'émission, notre incontournable chronique « Pas de salade entre nous ». Et cette semaine, nous allons parler des œufs, mais plus particulièrement de leur coquille. Et vous verrez que la coquille d'œuf, c'est encore mieux que les haricots magiques.
Et vous avez envie de poser des questions à Jean-Pierre Ribaud sur le thème des étangs. On attend vos messages. Vous tapez RJB, RTN ou RFJ, un espace, votre question. Et vous envoyez le SMS au 939. Vous pouvez aussi directement nous appeler au 0901 70 20 20. Il est quasiment 7h09 et il n'est jamais trop tôt pour sortir sa bêche et son seau. Soyez les bienvenus dans les jardinières.
Mylène, Sandra, Aileen, les jardinières.
Ce matin, nous parlons d'étangs, de biotopes et de mares. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour à tous.
Bon, alors pour bien s'entendre, pouvez-vous nous expliquer la différence entre ces trois termes, étang, biotope et mare?
Ah oui, bien sûr. L'étang, c'est une grande zone de milieu humide avec un grand plan d'eau et des zones humides tout autour. Le biotope, c'est une zone qui est vraiment plus restreinte, qu'on arrive à aménager dans les aménagements paysagers autour des villas et dans les milieux bâtis. Et le troisième, rappelez ?
Alors, il y avait étang, biotope, mare.
Oui, alors mare et biotope, je dirais qu'on peut les mettre les deux dans le même créneau. La grosse différence entre ces zones, c'est que le biotope, de par son volume, sera aménagé sur une petite surface. Nous aurons nettement moins de faune piscicole dedans, parce qu'en général, on essaie d'agrémenter plus la faune du milieu nature qui se trouve dans ces espaces-là. Puis, quant à l'étang, c'est vraiment des grands plans d'eau sur lesquels on a vraiment plus de recherche de culture piscicole.
Alors, on va parler biotope ce matin. Donc, avant de sortir sa pelle pour creuser son biotope, on se demandait s'il fallait une autorisation spéciale, genre de notre commune ou carrément de la Confédération.
Non, alors évidemment que non. Hein. c'est plutôt une question peut-être de profondeur, mais en tout cas pas de zone humide par rapport à un permis demandé pour aménager ça dans votre parcelle. Par contre, après, il y a des zones dans votre aménagement sur lesquelles il est important de se dire on va faire un biotope avec un milieu nature sans trop de poissons, ou alors quelque chose de plus agrémenté avec poissons et flore qui sera peut-être plus diversifiant. Alors c'est selon le point de vue que vous aurez sur cet aménagement. Si c'est vraiment une compensation écologique que vous recherchez, on va chercher à l'éloigner un peu du milieu bâti pour avoir beaucoup plus de tranquillité sur cette zone, avoir plus de faune. La flore va s'adapter relativement rapidement sur le tour de ce biotope. Par contre, si vous désirez plutôt avoir quelque chose en bordure de terrasse avec le bruit du gazouillis, de la pompe qui va vous amener de l'eau en hauteur ou sur cascade avec des poissons rouges, et bien on cherchera vraiment plus de proximité par rapport au bâti.
Et voilà, notre envie est là de construire notre étang. Par quoi il faut commencer exactement? Est-ce qu'il faut déjà préfabriquer un bassin ou mettre une bâche? Comment est-ce qu'on s'y prend pour commencer à construire notre étang?
Oui, alors on va réaliser un terrassement, soit à la main, soit avec une petite pelle mécanique. On va chercher à déjà avoir passablement la forme adaptée du futur biotope, des pentes pas trop raides, parce qu'on aime bien dans un biotope avoir des différents au niveau des altitudes d'eau, c'est très important pour la faune aquatique. Une fois que vous aurez réalisé votre premier terrassement, on va le lisser avec un substrat plutôt fin, principe d'une petite groise, d'un déchet de calcaire, éventuellement même du sable, peut s'adapter à cette situation. Sur quoi on va dérouler une feutrine qui fera vraiment protection par rapport à la bâche que vous déroulerez pour étanchéiser votre biotope. Donc le feutre, la bâche, puis de nouveau un feutre de protection pour éviter toute dégradation de cette bâche. Ensuite, de quoi sur la bâche, nous, on aime bien réaliser une couverture de plus en protection sur le principe d'une groise, parce que la groise, elle a l'avantage d'être fermée. Et puis si plus tard, vous voulez nettoyer votre biotope, vous avez vraiment de la facilité.
C'est quoi une groise ?
Oui, alors c'est un déchet de calcaire qui est plutôt fin, qui n'a pas de gros interstices. Alors évidemment, si vous prenez cette option, on aime quand même, dans le fond de votre biotope, réaliser des caches à poissons ou des caches à batraciens avec des gros blocs, des blocs calcaires, des blocs ou même du bois, quelque chose comme ça.
On peut mettre du bois dans le fond parce qu'en fait, j'imaginais qu'on mettait des cailloux.
Non.
On peut mettre des cailloux, on ne met pas de cailloux.
On n'aime pas tellement mettre trop de cailloux parce que le problème, c'est un jour vous décidez de nettoyer votre biotope. Alors le caillou, il est compliqué pour le nettoyer. En plus, sur les parois, sur les pentes de votre biotope, si vous accédez un jour dans votre biotope, ces cailloux vont tous se retrouver dans le fond du biotope. Ça va presque même pouvoir dégrader un peu le feutre, ce n'est pas la solution. Tandis que la groise, elle est vraiment liée, c'est quelque chose qui se met vraiment bien en place. Vous arrivez à la lisser à l'intérieur. Puis justement, pour compenser ces manques d'interstices avec des blocs, avec du bois, on arrive à faire des super caches.
Et est-ce qu'il y a une taille minimale pour l'étang, une règle quelque part dans le grand livre des jardiniers ?
Non, il n'y a pas vraiment de taille par rapport à la grandeur du biotope que vous voulez réaliser. Je dirais que c'est plutôt une question de proportion par rapport au volume dans lequel vous voulez poser votre biotope. Il faut aussi savoir que plus il sera petit, plus l'eau sera chaude, puis plus ce sera négatif par rapport à certaines faunes que vous souhaiterez avoir. Il est aussi sûr que si vous avez de l'eau très chaude dans votre biotope, vous avez de fortes chances de vous trouver vite envahi par le nénuphar, si pour autant vous en implantez, ou par la végétation, parce qu'elle apprécie énormément cette température. Et puis évidemment, on essaie de combattre aussi ce phénomène par la grandeur du biotope, donc toujours un peu plus grand que ce qu'on ne peut. Quoi.
Et puis, pour qu'il soit au frais, c'est mieux de le mettre sous un arbre, du coup ?
Non, alors c'est pas une question vraiment de... Oui, non, c'est surtout une question de grandeur, de biotope et de profondeur d'eau. Il faut aussi s'imaginer, bien sûr, que si vous faites une petite gouille, c'est vraiment le piège à batracien pour l'hiver. Il faut en tout cas une hauteur d'eau de 80 cm, voire 1 mètre, pour que si vous avez un fort hiver, que évidemment la glace ne vienne pas prendre toute la faune qui se trouve en hibernation dans le fond de votre biotope.
Ah ben, j'allais vous poser la question, vous parlez de 80 cm, mais est-ce qu'il y a une profondeur ? Est-ce que... comment est-ce qu'on dit
Non.
Je dirais, merci.
Minimum 80, après vous pouvez descendre à 1 mètre 20, là, on a plus de soucis à ce niveau-là. Par contre, il faut vraiment avoir des berges quand même qui remontent doucement sur les bords du biotope pour quand même permettre de l'eau de se tempérer sur les extrémités pour le têtard, pour la petite faune qui recherche quand même un peu de température printanière.
Et justement, suivant la profondeur, est-ce que l'entretien du biotope sera différent ?
Non, pas du tout, non. L'entretien du biotope, on a surtout un entretien au niveau de la végétation, parce qu'on sait que dans ces milieux-là, on a tendance à se faire relativement envahir. Donc, une taille, un nettoyage, attention de ne pas percer les bâches malgré toutes les protections qu'on aura mises en place. Le nénuphar, n'en mettez pas trop, parce que vraiment plus la température de l'eau sera, et plus vite vous allez vous retrouver envahi par cette plante.
On reviendra tout à l'heure sur justement l'entretien des biotopes en détail. Avant de faire une petite pause musicale, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près le prix pour faire un étang dans son jardin ?
Oui, ça dépend un peu de la grandeur que vous souhaitez réaliser votre biotope, mais je dirais pour une grandeur grosso de 250 à 200 mètres carrés, budget je pense entre 10 et 13 000 francs. Le tout, alors évidemment. On est quand même sur une surface relativement grande. C'est des prix qui me sont familiers, qui sont faciles à vous donner, parce que dans le cadre de l'autoroute, on a réalisé énormément de compensations écologiques avec une quantité invraisemblable de ce genre de compensation. Et puis bien sûr, les prix étaient très connus.
7h, 8h, les jardinières.
On est toujours en compagnie de notre jardinier. Ce matin, on a le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Ribaud, Jean-Pierre Ribaud de Queuve. Il est avec nous pour parler d'étangs, de biotopes et de mares. On parlait biotope tout à l'heure, on a parlé comment le construire, tout ce qu'il faut faire. On va parler maintenant d'eau, de plantes et d'animaux, toujours en compagnie également de mes deux jardinières.
Voilà, notre biotope est prêt, il faut maintenant le remplir. Alors on imagine bien qu'il faut mettre de l'eau dedans, hein, et pas une autre boisson. Jean-Pierre, dites-nous, quelle eau on met dans ce biotope ? De l'eau du robinet ? On laisse la pluie venir ? Comment ça se passe ?
Et alors évidemment, il est plus intéressant d'avoir une eau de pluie qui arrive gentiment dans le biotope que de lui mettre de l'eau de robinet qui est froide, qui a été traitée, puis qui n'est pas très intéressant au niveau écologie. Si vous avez la possibilité de reprendre justement une arrivée d'eau de toit, vous le remplissez gentiment, le biotope va se remplir. Évidemment, au début, vous aurez une eau qui sera un peu souillée par les fines, donc le matériel marneux qui se trouve dans les substrats que vous aurez lesté votre bâche de biotope. Mais après, évidemment, ces fines vont se déposer gentiment dans le fond de votre biotope. Et puis là, vous aurez une eau très limpide qui va prendre la température des extérieurs de chez nous. Si un jour vous deviez rajouter un petit peu d'eau dans le biotope, alors évidemment, on privilégiera l'eau de toiture. Et puis sinon, une petite arrivée d'eau douce, mais gentille, pour ne pas faire un trop grand choc thermique dans le bassin, pour éviter de la casse sur la faune piscicole et les batraciens.
Et justement, à part de l'eau, on va bien évidemment y mettre des plantes aussi. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des nénuphars, mais comment est-ce qu'on choisit ces plantes exactement en fonction du biotope que l'on a ?
Alors, il y a une ribambelle de plantes hydrophytes et hylophytes. Ça veut dire hydrophytes, celles qu'on arrive à implanter sous l'eau, qui va faire de la protection naturelle de la faune qui va s'y développer. Et puis les hélophytes, c'est les plantes qu'on plantera sur les extérieurs ou aux abords directs de l'eau. Elles ont aussi un but particulier. Ces hélophytes, c'est une protection sur la berge qui évitera une dégradation du pourtour du biotope par le battillage, ça veut dire par le battement de l'eau qui se crée naturellement par les vents, par l'air, voilà. Et puis là, on choisira alors peut-être par rapport à la situation de votre biotope sur le devant des petites plantes pour ne pas masquer le plan d'eau. Et puis sur l'arrière, on pourra venir avec des plantes plus conséquentes, plus en altitude, pour faire un fond plus égayé avec éventuellement l'iris, les hélophytes tels que les phalaris et autres.
Allez-y, Eline, excusez-moi.
Non, pas de souci, je voulais juste du coup préciser, ce ne sont pas les mêmes plantes que l'on met autour, dedans ou dessus. En fait, on s'adapte au biotope, à ce qu'il y a autour et au vent, comme vous nous l'avez dit.
Oui, ben vous êtes obligé. Oui, on peut pas mettre une hélophyte à l'intérieur dans le fond de votre biotope parce qu'elle va pas survivre évidemment. Il lui faudra un espace avec de l'air et puis une hydrophyte, pardon. On la mettra vraiment dans le fond. Principe du nénuphar avec une motte de terre pour qu'il puisse se développer.
Vous avez parlé de plantes protectrices sur la berge. Est-ce qu'il faut en mettre des spéciales ? Je ne parle pas forcément de protection, mais un exemple, ces plantes qui oxygènent l'eau ou bien.
Oui, bien sûr que. Mais une bonne partie de ces plantes vont de toute façon l'oxygéner, cette eau. Bien sûr, c'est des plantes qui sont adaptées à ce milieu. On pourra aussi un peu marier des plantes vivaces ou des petits conifères ou des choses comme ça après sur les abords directs pour égayer davantage. Ça dépend toujours du biotope que vous recherchez. Si c'est vraiment principe d'une compensation écologique très nature, alors on va rester dans le milieu très nature avec des plantes indigènes de chez nous. Et puis si ce biotope, il se trouve plutôt sur le milieu paysager avec lequel vous souhaitez faire une super déco, on changera un petit peu d'état d'esprit, on viendra avec des plantes plus décoratives, plus à fleurs, un peu plus élaborées.
Alors les plantes, c'est chouette, mais personnellement, je l'avoue, ce que j'aime dans les étangs, les biotopes, c'est me mettre accroupie et regarder dedans les petites bestioles, les tritons, les grenouilles. Je fais mon biotope chez moi, je fais quoi ? Je vais dans un autre biotope voler des tritons et des grenouilles pour en avoir chez
évidemment.
Moi ?
Évidemment.
Oui. Oui, bah oui.
Mais non, alors évidemment que non. Vous voulez voir, ça va très très vite que vous êtes envahi par toute cette petite faune aquatique qui arrive naturellement. Par contre, si vous souhaitez vraiment vivre avec ce milieu et puis avoir une reproduction naturelle de ces animaux, il faudra peut-être éviter le poisson, parce que le désavantage du poisson, que ce soit le poisson rouge ou la carpe ou la carpe-coï, elle va causer passablement de désagréments et de nuisances à la reproduction naturelle des batraciens qu'on a dans le milieu nature. Et puis il faut aussi savoir que si vous mettez des poissons dans votre biotope, il y a de fortes chances d'avoir une eau qui est toujours souillée, qui est troublée, dans laquelle vous ne verrez pas forcément le fond. Par contre, si vous n'avez pas du tout de poisson, vous avez de fortes chances d'avoir une eau très limpide, qui de temps en temps va quand même se gorger d'algues qui va venir en surface et qui va se redéposer. Ça, c'est une question de, de pression atmosphérique qui va faire que ces algues se développent, mais vous aurez vraiment une eau très limpide sans poisson.
J'ai une question qui tombe pile poil de Roger de Mervelier. Il me demande si, alors je pense que lui n'est pas allé voler des batraciens et autres libellules, mais il en a autour de son biotope, et il demande s'il peut laisser faire ou s'il doit les nourrir.
Oui, alors bonjour Roger. Non, évidemment, vous pouvez les laisser se développer de même, parce que de toute façon, dans le milieu humide, vous voulez avoir une quantité de plancton, d'insectes qui vont venir se reproduire naturellement, puis qui vont servir d'alimentation à cette petite faune qui sera en turbulence dans ce milieu.
Merci Jean-Pierre pour ces détails ô combien grandioses. Vous restez en notre compagnie, on se retrouve juste après la météo, les infos routes, et nous parlerons de l'entretien du biotope. Et en fin d'émission, les filles, qu'est-ce qu'il y a en fin d'émission ?
Pas de salade entre nous.
Et on va parler de quoi ?
Des coquilles d'œufs cette semaine.
Et on est toujours avec nos jardinières, on est tous ensemble. On est toujours en compagnie de Jean-Pierre Ribaud de Queuve. Jean-Pierre, tout va bien ?
Impeccable.
Et ce matin, on s'intéresse aux biotopes et vous êtes là pour nous éclairer sur la question. Et je crois que des questions, il y en a.
Oui, vous avez parlé tout à l'heure des animaux qui pouvaient se trouver dans l'étang, comme par exemple, on pouvait mettre des poissons ou d'autres choses. Et là, j'ai une question de Jacques de Tramelant. Il dit, j'ai un étang dans mon jardin et il y a une sorte de petit serpent dedans. Il se demande si c'est dangereux pour lui.
Oula, alors il est évident que les milieux humides attirent le reptile. Il y a la couleuvre à collier qui s'y plaît, il y a la vipère qui peut s'y plaire. Après, dans la dangerosité de ces serpents, je ne veux pas trop m'avancer parce que je les côtoie pas trop souvent, donc je les connais pas assez. Mais c'est vrai que ça peut être susceptible d'attirer des reptiles. Il faut peut-être qu'ils se renseignent auprès de gens plus connaisseurs au niveau de ces animaux, parce que là je voudrais pas lui dire qu'il court aucun risque et puis qu'il commence à les caresser et avoir un petit souci. Non, c'est mieux qu'il commence par prendre des renseignements, mais plutôt près de quelqu'un de plus futé que moi, je crois.
Mais vous êtes futé, Jean-Pierre, arrêtez de dire ça. Et d'ailleurs, peut-être que vous pourrez aider cette fois-ci Marc de Cortébert qui nous a demandé par SMS s'il était possible de mettre le poisson rouge que son gamin avait reçu pour son anniversaire dans l'étang, ou bien c'est quelque chose qui devrait pas se faire.
Oui, alors bien sûr qu'il peut mettre son poisson rouge dans l'étang. Un tout seul, peut-être, il va un peu s'ennuyer. Ce serait plus sympathique d'en mettre deux ou trois. Après, il faut quand même savoir que le poisson rouge, il a une tendance à se développer très rapidement. Ça veut dire qu'il fraye énormément. Il aura très vite une petite colonie de poissons rouges qui va se développer au détriment des éléments nature que l'on a par chez nous. Ça veut dire toute la reproduction des batraciens, des libellules et autres.
Voilà, vous avez justement parlé des libellules, des grenouilles, batraciens. L'étang, il est prêt, il y a les animaux. Est-ce que cet étang se suffit à lui-même ou est-ce qu'il a besoin d'un entretien spécial ?
Non, mais l'entretien, il va être peut-être un rajout d'eau durant les périodes très estivales si ça descend trop dans la hauteur. Parce que si l'eau, elle vient trop haute en température, il y a un risque d'asphyxie générale de votre biotope qui va causer énormément de dégâts sur la faune aquatique. Donc un rajout d'eau, un contrôle peut-être sur les pourtours de votre bâche pour être sûr que la protection posée ne se dégrade pas, ne descend pas, ne ravine pas, ou que d'autres animaux viennent coloniser les abords comme de la taupe ou du mulot, de la musaraigne. Donc si vous avez des rongeurs qui commencent de se développer tout autour, il est intéressant de faire un piégeage. Peut-être pas du gazage, parce que dans ce milieu nature, c'est pas le top. Et puis après, au niveau de l'entretien sur la saison, il y a évidemment encore cette gestion des élophytes, des hydrophytes, parce qu'on sait que toute la végétation est très virulente dans le milieu humide.
En parlant de végétation, de choses comme ça, souvent ce que j'ai remarqué, hein, lorsque je vous aborde un biotope, je ne vous cache pas que, voilà, c'est que des fois, il y a des mauvaises odeurs. Hein. Des fois, ça sent un peu les égouts, enfin, c'est un peu violent de dire les égouts, mais est-ce qu'on peut faire attention pour que ça n'arrive pas ? Est-ce qu'il y a des trucs ?
Non, mais normalement, ça ne doit pas vous arriver. Dans le sens où, si votre biotope est relativement grand, d'une grandeur acceptable, que l'eau ne monte pas en température, vous n'avez pas cette asphyxie, puis ces odeurs, vous ne devez pas les avoir. Alors après, évidemment, si vous commencez à touiller un peu dans l'eau pour essayer d'enlever une partie de la végétation ou de la vase qui s'y trouve, ben là, évidemment, vous tapez un peu dans le tas.
Ben, le biotope, pardon, c'est beau l'été, on voit les petits animaux. Ben là, il y a l'automne qui arrive, qui va être suivi de l'hiver. Est-ce qu'on a préparé le biotope ?
Non.
Lui mettre un manteau ?
Non, pas particulièrement, non. Non, mais au moins, justement, entretenir cette végétation qui est latente, enfin, qui se développe tout autour. Il faut aussi être vigilant par rapport au développement des saules, parce que le saule, c'est un pionnier qui se développe relativement très vite dans les zones humides. Alors, il ne faut pas le laisser s'implanter, parce que la racine, elle est virulente. Si elle est sur la bâche, et puis que vous le laissez développer, il va même prendre racine dans les feutres de protection. Puis à l'arrachage, vous risquez de causer des dégâts déjà dans le feutre. Peut-être pas dans la bâche, mais ce n'est pas la bonne solution de le laisser se développer. Et puis après, encore une plante à laquelle il faut être attentif, puis peut-être ne pas même la planter dans votre biotope, c'est la massette. Vous savez, c'est cette plante qui fait à peu près 1m50 à 1m80, qui a une espèce de cigare tout en haut. La massette, elle est très très colonisatrice, et puis si vous en implantez dans votre biotope, au bout de 3-4 ans, vous aurez une peine d'enfer à essayer de gérer la massette. Elle est vraiment trop envahissante pour la mettre dans votre biotope.
Mais elle est jolie.
Oui, alors elle est fantastique, jamais. Mais mieux vaut ne pas la mettre. Ou alors, si vous souhaitez vraiment un lot de massette dans vos aménagements paysagers, vous réalisez une petite zone humide, mais tout ailleurs par rapport à votre biotope. Puis là, sur 20-30 cm d'eau, sur 3-4 mètres carrés, avec une bâche étanche, vous y mettez la massette, puis là, vous aurez les massettes qui se développeront.
En parlant de massette, est-ce que je peux, moi, sortir mes manchettes et en hiver, on a parlé d'automne, mes patins et aller sur mon biotope? Non, en fait, non, mais on a parlé de l'automne, mais est-ce que l'hiver, est-ce qu'il y a des risques que ça gèle? Est-ce qu'il faut le recouvrir? Comme disait Mylène, est-ce qu'il faut commencer de tricoter une bâche?
Oui, non, alors évidemment, il y a des risques que l'eau gèle sur une longue période de froid hivernal. Mais le biotope lui-même est conçu pour supporter ces épaisseurs de glace. L'importance, comme j'ai cité tout à l'heure, c'est la hauteur d'eau qui est importante. Donc minimum 70-80 cm pour éviter tout problème futur sur la faune aquatique. Après, il y a aussi toujours sur un biotope de la végétation qui est prise dans cette glace, puis qui, avec les premiers coups de soleil, tout de suite dégage un petit peu d'arrivée d'air qui crée un trou sur cette hauteur de glace malgré tout. Donc non, la faune et la flore se supportent sans problème dans nos latitudes par des grands froids.
Et du coup, après... C'est vrai que c'est pratique. Mais du coup, après l'hiver, vient le printemps. Quels sont les gestes à adopter pour notre biotope une fois l'arrivée du printemps? Après un dur hiver, par exemple.
Régénérer peut-être un peu la végétation tout autour, si vous voulez changer un peu d'écotype, de variété, mettre peut-être plus de plantes fleuries ou un peu moins de plantes fleuries, peut-être rajouter un peu des tas de branches et puis des tas de pierres pour faire des caches pour la microfaune, ou les régénérer si vous en avez qui se sont un peu décomposés. Le printemps, je dirais que vous pouvez laisser, sinon quasi, la nature se développer. Vous allez voir, c'est que du bonheur.
Mylène, Sandra, Aileen, les jardinières.
Et ce matin dans les jardinières, nous avons parlé d'étang en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Et justement, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler les points importants si on veut creuser un biotope dans son jardin?
Donc, l'emplacement dans vos aménagements, si vous souhaitez un biotope très décoratif, vous le mettrez plutôt aux abords du bâti. Sinon, si vous cherchez une grande compensation écologique, vous l'éloignerez pour une certaine tranquillité. Le terrassement, la protection par feutre, la bâche synthétique ou en caoutchouc pour l'étanchéité, une deuxième protection intérieure au biotope, plus une couverture de grosse, la végétalisation et la mise en eau.
Et quels sont les avantages d'avoir un étang dans son jardin?
Ouais, alors c'est un milieu qui est grebu d'insectes, d'animaux et de végétation très virulente qui se développe. C'est un grand plaisir, je trouve, d'avoir ce genre d'éléments autour de chez vous. Même si vous trouvez sur une prairie très très sèche où quasi rien ne s'y développe, vous voulez voir qu'un plan d'eau amène une vie abondante et que du bonheur.
Oh, c'est beau. Mais est-ce qu'il y a quand même des inconvénients à avoir un biotope dans son jardin? Moi, j'en ai un d'inconvénient.
Vous avez un danger, vous, pas un inconvénient.
Ouais, non, mais c'est les moustiques.
Non, alors non, je dirais que le moustique ne se développe pas très, très facilement dans les biotopes parce que vu la faune qui s'y développe, telle que la grenouille, les tritons, tout ce qui est batracien et autres, il y a une forte prédation sur la larve du moustique. Par contre, les nuisances peut-être, si vous êtes dans un milieu très bâti, dans les lotissements très serrés qu'on connaît actuels, c'est vrai que le coassement de la grenouille peut gêner certains voisins. Je dirais que c'est le plus grand des désagréments qu'on pourrait avoir.
Sinon, l'écoulement d'eau aussi, si on a fait une petite cascade, peut donner envie d'aller aux toilettes plus souvent.
C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin, c'est Mylène, c'est comme ça, Jean-Pierre.
Voilà, c'est parfait.
Voilà, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour faire les jardinières.
Okay. Elle pense à tout, hein.
C'est vrai.
Jean-Pierre, on vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions, parce que je tiens à le dire hein, quand même. Il y a la braderie Brintrutaine.
C'est vrai. Hein,
c'est
vrai.
Une grande fête.
Et que du bonheur aussi.
On a joie et vous vous êtes levé ce matin pour nous retrouver pour répondre à toutes nos questions. Un grand merci. Je vous propose de rester avec nous pendant notre rubrique pâte salade et nous allons parler des œufs et plus précisément des coquilles d'œufs.
Les jardinières, pâte salade entre nous. Les jardinières, pâte salade entre nous.
Oui, donc ce matin on va parler un peu des œufs et quand on parle des œufs, on pense tout de suite à... À quoi vous pensez ?
Moi, je pense à une question très philosophique. Qu'est-ce qui est venu avant, l'œuf ou la poule ? Allez, répondez.
Voilà, Sandra, à quoi vous pensez ?
Moi, je pense plus à rien.
Il est encore trop tôt, Sandra, vous n'êtes pas encore réveillée.
Bon, souvent, quand on parle d'œuf, on pense d'abord au blanc ou au jaune, à la salade qu'on va pouvoir en faire, ou au gâteau ou à l'omelette. Eh bien non, on va parler ce matin de l'extérieur de cet œuf, de la coquille. Bien souvent, après avoir cassé les œufs, la coquille termine sa courte vie dans la poubelle. Bon là, je dis stop tout de suite, parce qu'on va découvrir des astuces naturelles pour réutiliser cette fameuse coquille. Sandra, Eileen, est-ce que vous avez des idées de recyclage de coquilles ?
Des bricolages !
Pourquoi pas ?
À part les bricolages, moi, je vois pas trop, hein.
Eh bien, tendez bien l'oreille, parce que moi, j'ai des super idées. On va commencer par enrichir le compost, parce que cette coquille d'œuf est riche en minéraux, et donc elle va enrichir le compost et diminuer son acidité.
Alors, c'est super hein, ce que vous dites, mais moi, j'ai pas de compost, Mylène, et je ne peux pas faire une petite mosaïque dans mon compost avec vos coquilles d'œufs. Je fais comment ?
Eh bien, qu'en ça ne tienne, Sandra, pas de souci. Il vous suffit d'écraser les coquilles et de les déposer au pied de vos plantes, genre vos plantes d'appartement. Ça leur fera du bien. Ces mêmes coquilles vont aussi protéger les arbres fruitiers, en particulier contre ce qu'on appelle les cloques du péché. On broie les coquilles grossièrement et puis on les suspend aux branches des arbres. Il paraît que c'est magique.
Oh, puis ça doit être joli.
Oui, enfin... Mais ce n'est pas tout, mesdames.
Mais Mylène, on dirait que vous êtes une vendeuse de téléachat, voire de radio achat, on devrait
oui,
dire
je suis
ce matin.
Je suis une poule et je vends mon œuf, voilà. Mais bah oui, parce que la coquille d'œuf, c'est magique. Je continue. Elle va repousser les rampants de votre jardin. Les rampants, c'est les escargots, les limaces, c'est des trucs qui rampent. On émiette la coquille d'œuf et hop, bah, les limaces et les escargots vont y croire que c'est une barrière dangereuse qui va leur couper la peau. Elles n'oseront plus passer.
Ah ben c'est vraiment génial, hein. Donc en fait, vous prenez un bidon, vous mettez toutes vos coquilles d'œufs à l'intérieur et vous saupoudrez votre jardin allègrement. C'est un peu ça, non ?
Oui, exactement, voilà.
Mais alors, pour ceux qui n'ont ni jardin, ni compost, hein, voilà, on fait comment avec
on
nos coquilles
d'œufs ? On ne sait pas de qui vous parlez, Sandra.
Eh bien, j'ai encore des idées pour ceux qui n'ont ni jardin ni compost. On va récupérer, récurer la saleté incrustée grâce à cette fameuse coquille d'œuf. On mélange les morceaux de coquille broyée avec un peu d'eau et du savon et paf, vos casseroles et vos poêles vont redevenir étincelantes. Et puis justement, en parlant d'étincelance, la coquille d'œuf fera briller votre vaisselle. Un peu de vinaigre, des coquilles d'œuf réduites en poudre, un mélange redoutable pour retrouver une vaisselle comme neuve.
Ah bah moi, je vais tenter ça tout de suite après le festin que j'aurai à midi. Hein.
Vous faites des omelettes avec une douzaine d'œufs, vous, Eileen ?
Je crois que je vais tenter cette recette. Ça m'a donné faim de parler d'eux. Hein.
Et puis, les filles, hein, entraînons un dernier conseil. Hein. Le truc brun dans le frigo qui est un peu poilu. C'est pas un œuf, hein. C'est un kiwi.
Les jardinières, pas de salade entre nous.
Excellente journée, les filles. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À tout bientôt.